Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des hommes au destin singulier. Celui que je reçois ce matin en est un. Jean-Marc Potvin commence à sillonner la France pour faire connaître une appli pas comme les autres, Entourage. Le concept, mettre en réseau via le net ceux qui viennent en aide aux personnes sans domicile fixe. Idée belle et généreuse, diront certains. Pas très rentable pour un entrepreneur, diront peut-être d'autres. Pour en arriver là, il a fallu en tout cas que Dieu lui-même s'en mêle et frappe fort. Très fort, car Jean-Marc Potvin a il y a quelques années déjà reçu une grâce très particulière. Bref, de quoi faire une émission. Jean-Marc Potvin, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Donc vous êtes fondateur aujourd'hui de Entourage, donc cette application dont on va parler. Vous commencez à sillonner la France, je crois que vous commencez en partie par Toulouse, donc pour essayer de présenter cette application donc, qui aide à mettre en réseau et les particuliers et les associations avec les personnes sans domicile fixe, et dans les deux sens, enfin dans les trois, associations, personnes sans domicile fixe, particuliers, etc. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans cette émission, parce que je voulais essayer d'être relativement chronologique avec vous. Alors vous avez publié aussi un livre qui s'appelle les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, l'expérience mystique d'un business angel aux éditions de l'Emmanuel en 2012, si je ne me trompe pas. Avant toute question, je voulais d'abord vraiment vous remercier et puis voilà, dire aux auditeurs, c'est jamais facile de témoigner. Il y a des gens souvent qui viennent témoigner à cette antenne et c'est de leur part très généreux, donc soyez-en remerciés. Alors, si on essaie de reprendre les choses dans l'ordre, donc Jean-Marc Potvin, avant Entourage, cette application, on espère, révolutionnaire, c'était au départ, vous étiez, vous êtes toujours un ingénieur, voilà, vous n'êtes pas un surdoué, mais en tout cas, vous êtes très talentueux et vous vous êtes retrouvé un peu dans l'aventure de l'Internet et pour faire rapide, surtout dans l'aventure de quel coup. Alors, présentez-nous peut-être ce Jean-Marc Potvin d'autrefois et qui était cet ingénieur, je crois, même à un moment. Vous avez vécu aux États-Unis, non, au Texas, c'est ça?
Voilà, et quand je travaillais au Texas dans un laboratoire de recherche, où, au moment où le web a été inventé, en fait, c'est assez vieux le web, c'est dans les années 90. Donc, et on a compris que ça allait transformer le monde, que ça allait transformer la façon dont on achète, dont on communique, dont on cherche de l'information, que ça avait vraiment le potentiel de changer la vie des gens. Donc c'était assez exaltant comme période, et en tant qu'ingénieur, de participer quelque part à cette transformation du monde, j'ai beaucoup aimé. Et on a passé de nombreux projets, en fait, à imaginer la façon dont les gens, par exemple, allaient acheter différemment. Et ça, c'est l'histoire de quel coup, donc au début des années 2000, où on s'était dit, à partir du moment où on a Internet, on pourrait proposer aux gens, en fait, un système dans lequel ils vont pouvoir comparer tous les prix avant d'acheter. Et les gens nous disaient, mais ça ne marchera jamais. Un, j'achèterai jamais sur Internet. Début des années 2000. Moi, j'ai besoin de voir un produit avant d'acheter. Deux, jamais les commerçants vont accepter de venir mettre leur fichier pour qu'on compare leur prix, leur catalogue produit. Ils ne le feront pas. Donc, votre truc, ça ne marchera jamais. Et quatre ans après, on avait 33 millions d'utilisateurs uniques dans 9 pays. Et on avait des milliers de commerçants qui étaient sur le système.
Donc ça vaut le coup de le rappeler, c'est ça, la révolution Internet, c'est les années 90. Et là, en l'occurrence, ce que vous décrivez, c'est les années 2000. Ça paraît qu'on a l'espression qu'on a toujours vécu avec ça, mais c'est...
Non, c'est ouais,
une espèce d'accélération de l'histoire, en tout cas, au moins,
En fait, ouais, il y a eu trois grandes ruptures. La première, c'est l'invention de l'Internet, qui est assez ancienne. En fait, moi, j'avais mon adresse email dès 88 sur ma carte de visite, donc Internet qui date des années 75. Peu de gens le savent. Le web, qui a vraiment fait cette révolution au début des années 90. Et la troisième grande révolution, c'est l'arrivée des smartphones, dans laquelle j'ai tout ça à disposition dans la poche. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans la poche, j'ai une espèce de télécommande sur les choses autour de moi. Parce que je suis localisé, on sait où je suis, il y a les cartes, les applications, ça communique. Et donc toute cette puissance qu'on avait développée dans le web dans les années 2000, maintenant on l'a dans la poche. Donc voilà, pour moi il y a vraiment ces trois phases. Puis la quatrième qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est l'Internet of Things, l'Internet des objets, où les objets se mettent à communiquer entre eux.
Alors, donc vous participez à l'aventure Quel coup, et Quel coup donc est un succès considérable, c'est ce que vous venez de dire, et vous revendez, les fondateurs revendent Quel coup, donc vous empochez une somme, vous en parlez dans votre livre, hein, donc je me permets de le dire, c'est que Quel coup est revendu à 485 millions, c'est ça, ou millions d'euros, millions quand même, pas milliards, pardon. millions d'euros et donc vous partez avec cet argent dans la poche et vous êtes nommé donc vice-président de Yahoo pour l'Europe.
Alors je pars pas du tout avec cet argent dans la poche parce qu'on était extrêmement dilué on s'était dilué avec cinq autres startups, les investisseurs avaient une énorme part de la boîte, donc on a pris l'ensemble de l'équipe des fondateurs, moi je suis parti avec quelques millions d'euros, mais ce qui est énorme par rapport à ce que gagnent la plupart des gens, c'est sans doute pas suffisant pour pouvoir arrêter de travailler, mais donc...
Vous aviez quel âge juste à l'époque ?
Ouh là là, 40 ans je pense.
40 ans, voilà. Donc vous êtes vice-président de Yahoo Europe, et alors là c'est la consécration, vous commencez vous voyagez, vous travaillez comme un fou, et pour autant petit à petit il y a quelque chose à l'intérieur qui commence à grignoter.
Bon, en fait c'est assez étrange et personne ne comprend, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui aime son métier, qui est ingénieur et qui aime construire des trucs, avoir ce type de responsabilité dans une société comme Yahoo à l'époque c'était le Facebook ou le Google d'aujourd'hui, quoi. Donc c'était vraiment l'endroit où il fallait être, avec de l'argent, avec une famille qui marche bien, etc. Et j'avais en fait une sourde insatisfaction profonde sur « mais pourquoi je fais tout ça ?» quel est le sens de mon action ? En fait, j'étais... Ça n'allait pas, quoi. Assez fondamentalement, je n'étais pas satisfait de ma vie. Donc j'étais en permanence dans les avions, en permanence dans des réunions, je voyais peu ma famille, il faut bien reconnaître. Une espèce d'exaltation à construire quelque chose. Et j'avais l'impression que c'était une sorte de fuite de moi-même, une fuite de l'intériorité, une fuite dans l'activisme, enfin un truc qui n'allait pas, quoi.
Ce qui est étonnant avec votre parcours, c'est que tout était vécu de manière, on va dire, hyperbolique, on a l'impression. C'est-à-dire que il vous est donné de tout vivre, d'être là au bon endroit, j'ai envie de dire, et de tout vivre à fond. Alors, par exemple, vous avez une image pour décrire cette période. Vous dites, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous nourrir. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait l'expression, parce que je ne la retrouve pas tout de suite dans votre livre, mais en courant la bouche ouverte, voilà. Et en fait,
de se nourrir du vent, quoi. Ouais,
se nourrir du vent. Et puis vous courez, et puis en fait, il se passe pas grand-chose. Il y a juste la bouche qui se desséchait. L'image est très parlante.
Ouais, ou celle du hamster dans sa roue, hein, qui court, mais il sait pas pourquoi il court. Donc, je pense que c'est une des maladies contemporaines très fortes. Hein. C'est l'activisme qui trouve en fait ses racines. Ici, on est dans une radio chrétienne, donc je pense que les gens se rappelleront encore de ce mot. Une des racines de cet activisme, c'est l'acédie. Donc, qui est en fait le mal du siècle. Et l'acédie, c'était un des sept péchés capitaux avant qu'on retire spécifiquement l'acédie. Donc, l'acédie,
c'est... Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, comment vous faites ce lien
Parce qu'en fait, c'est l'acédie, c'est une sorte de fuite de son intériorité et de sa spiritualité. D'accord ? Elle peut se traduire de différentes manières. Ça se passe souvent en milieu de vie. Donc, c'est souvent une crise. C'est ce qu'on appelle maintenant la crise de milieu de vie, où les gens quittent leur femme ou quittent leur job ou, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur vie. Et ça vient souvent d'un abandon de sa spiritualité, de sa vie intérieure, ce qui était clairement mon cas. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'étais chrétien, c'est marié à l'église, mais j'avais abandonné progressivement la prière, j'avais abandonné progressivement la messe, parce que finalement, ça marche beaucoup mieux quand on travaille. On a de bien meilleurs résultats quand on travaille que quand on prie. Et puis une sorte d'orgueil de la réussite, j'ai tout réussi par moi-même, par mes propres forces, parce que je me suis levé tôt, je suis courageux, etc., etc. Donc il y a un orgueil un peu démesuré qui se crée, et on oublie qu'on doit tout ça à quelqu'un, quoi, et on oublie sa vie spirituelle.
Alors c'est vrai que ça paraît, comment dire, évident quand vous le dites, en tout cas à une antenne chrétienne, mais c'est comment dire, rien que ça, c'est déjà assez révolutionnaire de dire ça. Vous disiez à un moment dans votre ouvrage comme ça que, voilà, que je perds le fil de ma pensée, vous voyez, je suis tellement... tellement, ému par ce que vous dites. Continuons, pardon, excusez-moi de ce trou. Continuons. Donc, vous êtes à la tête de vice-président de Yahoo, vous courez dans les avions, vous dites que vous avez cette insatisfaction. Et puis, voilà, comme vous êtes un homme de tempérament, vous dites, je plaque tout et je vais commencer à vivre en prenant du temps pour ma femme, qui d'ailleurs est en plateau aujourd'hui, et pour mes enfants. Alors, voilà, décision radicale qui n'a pas résolu tout à fait le problème.
En fait, je pensais que la source de mon problème, c'était mon travail qui me prenait trop de temps et qui m'entraînait dans cet activisme. Et donc, je pensais qu'en débranchant mon travail, je retrouvais une sorte de calme et donc potentiellement de paix intérieure. Effectivement, de dire aussi, comme j'ai gagné de l'argent, je pourrais aussi un peu profiter de la vie, faire du sport, voir mes enfants, etc. Et en fait, ça n'a rien réglé parce que très vite, je me suis mis à remplir mon temps par soit du loisir, fait du sport, de l'escalade, de la voile, etc., du voyage. soit je me suis remis à aider un tas de jeunes entrepreneurs dans l'internet qui venaient me voir en me disant, Jean-Marc, tiens, t'as gagné de l'argent, tu pourrais pas venir nous aider à investir dans notre super projet de musique en ligne, d'immobilier en ligne. Donc, et je me suis mis à aider 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10 entrepreneurs, alors plus ou moins investis avec eux, plus ou moins actifs, en tant que business angel. C'est-à-dire que j'ai investi mon temps et mon argent auprès de ces jeunes sociétés pour essayer de faire des choses nouvelles. Et du coup, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, rien n'avait changé et que j'étais de nouveau tout le temps parti de chez moi, tout le temps en action. Et donc, j'avais rien réglé, en fait. C'était pas la source de cette insatisfaction, c'était clairement pas mon travail, quoi. C'était autre chose.
Je retrouve ce que je voulais vous demander. En fait, à un moment, donc vous dites en effet que vous appuyez sur vos propres forces. Donc, c'est ce que vous avez dit, volonté, ténacité, travail, endurance, connaissance, savoir, etc. Et on veut dire, enfin, c'est tout à fait louable, hein, et tout à chacun est comme ça, et c'est pas forcément fondamentalement mauvais. Mais est-ce que vous pouvez préciser, quand vous dites qu'aujourd'hui, ou vous, il y a aussi quelque chose de tout à fait, enfin, légitime, c'est très difficile d'imaginer ne s'en remettre qu'à Dieu, ou alors en tout cas de pas s'appuyer en partie sur ses propres forces.
Ouais, mais d'où viennent ces capacités d'endurance, de force, de connaissance, etc. C'est pas moi, je suis pas ma propre source. Elles viennent de quelqu'un qui, enfin, elles viennent du Seigneur, quoi. D'accord. Donc quelque part, quand on se met à ne compter que sur ses propres forces, donc on vise la réussite. En fait, il y a une forme d'idolâtrie de la réussite. Il y a une forme d'orgueil qui est en fait la mort de Dieu, c'est-à-dire c'est de dire ma réussite je la dois à mes propres forces, donc c'est moi qui suis ma propre source, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se produit. Donc la course à la performance, la recherche de la performance du travail, elle n'est pas mauvaise en soi, mais assez facilement on tombe dans le piège de l'idolâtrer en réalité. C'est-à-dire que on se met à viser la réussite pour la réussite, la performance pour la performance, et à valoriser son travail, sa force, etc. Et radicalement, c'est là où il peut faire du bien pour ce genre de personnes dont je fais partie, de tomber malade, d'avoir un problème, etc., pour à un moment donné se rappeler à la réalité en disant « mais attention, faut se rendre compte que notre société pousse à ça, hein. Il y a une sorte de structure de péché, dirait Jean-Paul II, qui pousse dans cette voie-là de recherche de la performance, du culture de soi, d'individualisme, etc. Et en fait, c'est très violent. Parce que ceux qui ne peuvent pas jouer dans cette cour-là, ceux qui tombent à un moment donné, ceux qui n'ont pas cette force, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des profs qui leur ont permis d'eux, ou la famille qui leur a permis d'eux, bah, ces gens-là, du coup, si le reste court cette course à la performance et à la réussite, ça laisse des exclus sur le bord de la route.
Et ils sont de plus en plus nombreux, du coup.
Et ils sont de plus en plus nombreux.
Au regard de cette structure de péché,
ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus sur les bords de nos routes. Donc je pense que collectivement, on est responsable de... je crois que c'est François qui parle de la... Le pape François qui parle de cette...
culture du déchet.
Culture du déchet.
Ou du rebut.
Voilà, donc c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que... on a l'impression que c'est bien de ok, on court pour être le meilleur, pour être le premier, pour essayer de bien réussir. Mais il y a la face cachée de ce truc-là, qui sont ceux qui peuvent pas courir, et ben ils sont mis au rebut. Et ça c'est violent. Donc on crée un truc. Il y a une idolâtrie à titre personnel de sa réussite. Ça peut être aussi une recherche de cupidité, hein, l'argent. Ça peut être aussi une recherche de gloire, parce qu'évidemment quand on réussit comme ça, la vanité s'en mêle. Et puis toutes ces choses-là sont à l'œuvre, hein, qui sont pas bonnes. Donc à titre individuel c'est pas bon, et à titre collectif on voit que ça crée une société extrêmement violente, en fait.
En tout cas, vous dites à un moment que vous vous sentez au fond du trou, c'est même l'expression que vous utilisez dans votre livre, et puis donc vous décidez, là aussi assez radicalement, en tout cas si vous le décrivez comme tel, vous en parlez à votre femme comme ça, qui peut-être pourra en dire un mot après, vous dites voilà, moi je pars marcher sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Alors c'est vrai que bon, vous étiez issu d'une famille chrétienne, si j'ai bien compris. Vous étiez catholique très très moyennement pratiquant. Vous disiez dans votre ouvrage, voilà, les sociologues m'auraient classé catholique pratiquant. Mais bon, en tout cas, Saint-Jacques, c'était peut-être assez éloigné de vous. Donc vous décidez de partir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant qu'on fasse une première
pause ? Pour être franc, je ne savais même pas où était Saint-Jacques. Hein. J'ai dû aller regarder sur Internet, sur Google, où se trouvait Saint-Jacques de Compostelle, quoi. Mais j'avais dû lire un jour un livre en me disant, tiens, je ferais bien ce truc-là un jour. Marcher, c'est sympa, je serais dans la nature. Le vrai truc, c'était j'ai besoin d'une respiration. En fait, il faut que je fasse le point sur pourquoi je suis pas satisfait de ma vie, alors que en apparence tout a l'air bien, et donc de retrouver cette paix intérieure, ce calme. Et Saint-Jacques, je pense que le choix n'est pas anodin. Et comme je l'écris un peu dans mon livre aussi, j'avais aussi en tête quelque part de me remettre à une certaine intériorité. J'ai emmené des livres de prière, par exemple, des choses comme ça. Quoi. Mais...
Vous êtes parti avec une vraie bibliothèque. On va faire une première pause et puis vous allez nous parler, nous partager ce que vous avez vécu sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. Sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie. C'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages. Ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau. D'envoyer quelqu'un à sa place marcher. Dans tes prières, sois mon mandataire. De mon catéchisme, j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu garderas au fond de tes yeux clairs. Sous quelques toiles, à la belle étoile, tu feras ton lit dans la douceur de l'air. La route est longue jusqu'à Compostelle. Cette route, tu feras sans doute de belles rencontres, on te tendra la main. Et dans les gîtes où parfois on s'abrite, tu ne seras qu'un parmi d'autres humains. D'un pas tranquille, villages et villes défileront comme grains de chapelet. Si tu trébuches, ne crains pas les bûches, cette marche est bien celle que tu voulais. La route est longue.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin donc nous sommes avec Jean-Marc Potvin avec ce titre d'émission du business au sans domicile fixe. Donc Jean-Marc Potvin qui est fondateur d'Entourage, nous en parlerons tout à l'heure, donc une application pour aider tout à chacun, les associations et les personnes sans domicile fixe pardon, à être connectées, à être en réseau et pour à terme évidemment briser la solitude et l'isolement de ces personnes, en tout cas y contribuer. Mais pour essayer de reprendre le fil donc de cette application, parce qu'on ne développe pas une application relation comme ça, sans, comment dire, sans histoire, on va dire sans arrière-pensée. Jean-Marc Potvin est aussi l'auteur donc d'un ouvrage qui s'appelle « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu », l'expérience d'un business angel, l'expérience mystique pardon d'un business angel paru aux éditions Les Menelles en 2012. Donc on retrace un petit peu son parcours si vous nous prenez en cours de route. Alors vous dites que vous êtes parti marcher sur les chemins de Saint-Jacques. Alors il y a quelque chose de très cocasse, enfin cocasse c'est facile à dire parce que c'est pas moi qui marchais, mais le Seigneur n'y est pas allé de main morte avec vous, c'est-à-dire que dès les débuts, le chemin de Saint-Jacques a été très compliqué et en même temps très providentiel. Vous dites dans votre ouvrage que, chose étonnante, c'est vrai qu'il peut paraître même absurde pour quelqu'un de très rationnel, vous aviez énormément de signes qui vous rappelaient votre vie précédente, et puis très rapidement, en fait, des conditions climatiques, des rencontres assez étonnantes qui vous ont un peu assez rapidement en fait, mis à genoux d'une certaine manière.
Oui, pendant les 10 premiers jours de marche, donc je suis parti de chez moi près de Grenoble, direction du Puy. Donc j'ai rejoint un chemin qui venait de Suisse en fait, et qui est un chemin de Saint-Jacques qui amène au Puy-en-Velay. Et pendant ces 10 jours de marche, moi qui pensais être un bon marcheur, le troisième jour j'ai une tendinite, je peux même plus enfiler mes chaussures. Donc je me retrouve à marcher avec les sandales que j'avais achetées pour le soir. Et surtout, je passe dans des lieux qui sont spécifiquement évocateurs de problèmes non réglés de ma vie. En fait, ça peut être le nom d'une rue, par exemple, ou un village particulier, ou une statue, des choses qui me rappellent assez spécifiquement des moments de ma vie où je me suis mal comporté avec des gens, où j'ai menti, où j'ai été lâche, où j'ai je sais pas quoi. Et au début, je trouvais ça le hasard. Enfin, moi, je suis plutôt ingénieur rationnel, donc la providence, c'est pas quelque chose auquel je pouvais croire. Hein. Mais au fur et à mesure, je me dis, mais c'est quand même extrêmement bizarre, toutes ces choses qui me sont mises devant les yeux. Et pour vous donner un exemple, quand j'arrive dans un petit village de Montfaucon, en Haute-Loire, où il y avait des panneaux un petit peu partout disant il faut aller visiter la collection du peintre Abel Grimmer, qui est un peintre flamand de je ne sais plus quel siècle, dans l'église. Donc je dis, bon, j'ai rien d'autre à faire, je rentre dans ce village, dans cette ville à Montfaucon, je rentre dans l'église, sac au dos, et là il y a 12 tableaux, donc 6 de chaque côté. Je me dirige vers le troisième tableau au hasard, à ma gauche, et en gros, ce tableau, c'est une scène de l'évangile de Saint-Luc, du jeune homme riche, dont les terres ont beaucoup rapporté, et il ne sait pas quoi faire avec son blé, donc il détruit ses anciens greniers pour en construire des plus grands, en fait, pour accumuler sa richesse, et dire « maintenant je vais me reposer, boire, manger et jouir de l'existence ». Et là, on lui tape sur l'épaule, le Seigneur lui tape sur l'épaule en disant « mais tu es fou, tu vas mourir cette nuit, et tout ce que tu as amassé, à quoi ça va te servir ?» Et en gros, c'était mon histoire. J'avais gagné pas mal d'argent avec la vente de Quel coup à Yahoo. J'avais décidé d'arrêter de travailler pour profiter de la vie. Je me suis retrouvé au sommet du Kilimandjaro avec un œdème pulmonaire à méditer pendant toute une nuit sur le fait que j'allais mourir et que du coup ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc voilà, typiquement le chemin me mettait sous les yeux soit des choses très spécifiques, soit des histoires qui correspondaient exactement à ma situation, quoi. Et j'étais assez étonné en disant, mais j'ai l'impression que ce chemin me parle. En fait, il me faisait revisiter, mais c'était pas un exercice psy. Hein. Il me faisait revisiter un peu mon côté obscur.
Alors avant votre arrivée peut-être au Puy, donc la grâce que vous avez reçue, il y a quelque chose dont je voulais parler avec vous, c'est cette rencontre avec cet évangélique. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? C'est vraiment vous croisez un homme un peu un furieux, quoi.
Alors c'est très bizarre.
Qui commence à vous invectiver, mais en même temps, derrière...
Ouais, hyper tôt le matin, vers, je sais pas, j'étais parti peut-être à 6h30 ou 7h du matin, et je croise un type qui visiblement était un paysan local, je pense qu'il travaillait là, ou en tout cas il était en tenue de travail. Et il était assez agressif envers moi, il me dit « mais où est-ce que vous allez ?» Je dis « ben je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle ». Enfin, je voyais que le type était du coin, je suis quand même sur le chemin, je pense qu'il devait le savoir, quoi. Et donc je suis un peu ironique même avec lui, je lui dis « je crois que c'est par là ». Quoi. Et là il s'énerve en disant je sais pas quoi, enfin je me rappelle plus bien ce qu'il m'a dit exactement, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Donc je lui ai répondu, ça tombe bien, je crois en un seul Dieu, hein, ce qui est le début quand même de notre credo, quoi. Et puis je pars en me disant, ça va mal se terminer cette histoire, donc j'interromps la conversation, je pars. Et à ce moment-là, mais sérieusement, le ciel change de couleur, un orage arrive dans les quelques minutes après, lui est remonté dans sa voiture et est parti. Je prends l'orage, il se transforme en grêle, donc ça dure une heure, deux heures, il se transforme en neige. Donc, il faut savoir que je marchais en sandales et en short. Donc, je me retrouve à passer un col qui était donc enneigé avec le vent de face, etc. J'ai complètement transi de froid. Enfin, ça dure plusieurs heures. Je tombe sur un petit village, Saint-Geur, dans lequel il y a une auberge d'ouverte. Je me dis, super, je vais aller me réchauffer parce que j'étais complètement transi de froid.
Il n'y a justement pas de chauffage.
Et je rentre dans l'auberge et la dame m'accueille en disant, ah bah, vous tombez mal, justement, mon fils n'est pas passé ce matin et il n'a pas pu réparer le chauffage. Enfin, voilà, quoi. Et je ne comprenais rien à cette histoire. Je me dis, mais c'est comment c'est possible que tout d'un coup comme ça on se prenne. Alors surtout voilà, on était au mois de mai quoi. Je m'attendais absolument pas à avoir de la neige, à avoir de ce genre de conditions. Je comprenais pas le lien qu'il pouvait y avoir avec cette personne. Enfin c'était étrange pour moi quoi. Évidemment je faisais un lien parce qu'il y avait une telle synchronicité entre les deux événements, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire.
Alors après, donc vous arrivez, on fait court évidemment, hein, parce qu'il faut aussi qu'on parle d'entourage, mais vous arrivez au Puy-en-Velay, et puis donc c'est autour du 1er mai. Hein, c'est
bien. J'arrive ça, le 1er mai.
Le 1er mai en fait. 2008. Et puis donc vous vous retrouvez chez les Sœurs de Saint-Jean, qui ont là-bas un prieuré, ou enfin un petit monastère.
Alors sachant que le 1er mai 2008, c'est le jour de l'Ascension. Donc je me retrouve le jour de l'Ascension au Puy.
Donc il y a du monde.
C'est blindé de monde. C'est, voilà. En plus, c'est le pont de l'Ascension. Donc, voilà.
Et puis, donc, vous rentrez dans la chapelle et là, en fait, vous tombe dessus. C'est en tout cas ce que vous décrivez dans votre ouvrage. Une grâce très, très particulière, une grâce mystique très profonde. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'être indélicat hein, parce que c'est vos secrets avec votre secret avec le Seigneur. Vous le décrivez dans l'ouvrage. Les gens peuvent aller dans cet ouvrage. Dites-nous ce que vous pouvez en dire. C'est vrai qu'en le lisant, il y a quelque chose de très frappant. C'est qu'on entend sur cette antenne ou dans des radio chrétienne, en émission chrétienne, souvent parler de gens qui ont vécu des conversions, mais peu de gens décrire ce que vous décrivez, c'est-à-dire que vous avez vu donc dans le Saint-Sacrement le roi des rois. Voilà. Et vous citez ce passage comme ça dans l'Écriture, où même ce psaume prend tout son sens, le psaume 24. « Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Donc vous avez vu le roi de gloire. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ou nous en partager?
C'est très étonnant. Donc je rentre dans la chapelle privée des sœurs, donc au prieuré Marie-Reine, rue de la Visitation, qui est juste à côté de la cathédrale du Puy. Et les sœurs étaient prosternées, en fait, en silence, en prière, dans cette chapelle. Donc elles étaient 6, je crois, ou 5 ou 6. Pendant presque une heure, en adoration devant le Saint-Sacrement. Je ne savais pas que c'était une adoration du Saint-Sacrement. J'avais vu l'ostensoir, mais je n'avais pas réalisé que c'était une hostie consacrée. Je m'assois au fond de la chapelle, et quasi instantanément, c'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai vu la pièce s'agrandir, et c'est pour ça que je cite ce psaume, parce que j'ai vraiment vu la chapelle devenir immense, rentrer et se mettre face à moi le roi, donc, et je ne peux pas le décrire autrement, et c'est vraiment donc hyper impressionnant, parce qu'il avait une immense puissance, une immense présence d'être, une immense énergie qui m'a mis d'ailleurs dans un état à la fois de paix immédiate, en disant « Waouh, c'est super d'être là !» quoi, et à la fois dans un état de crainte, parce qu'il y avait une telle puissance d'être dans la pièce que on se sent tout petit à côté, quoi. Et si c'était pas que bienveillant, on pourrait avoir peur d'être écrasé par cette présence. Et là, il rentre en relation avec moi, il me dit des choses, très fortes, et il rentre en relation avec moi de façon très particulière. C'est-à-dire qu'il communique entièrement, comme une sorte d'osmose. Je pouvais ressentir tout ce qu'il ressentait. Enfin, c'est pas ni par les yeux, ni par les oreilles, ni par le toucher, mais c'était complet, quoi. Une espèce d'expérience, holistique, on pourrait utiliser ce mot-là, ou... Donc je ressentais tout ce qu'il voulait me faire ressentir, donc une communication parfaite avec lui. Et là, il me parle des sœurs en me les montrant, en disant, voilà, ce sont mes créatures, elles m'appartiennent. Et il me montre quelque chose d'absolument incroyable, qui est son union à lui avec ses créatures. Donc comme l'union d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire l'union du divin et de l'humain, mais corps et âme, pas un truc complètement abstrait, quoi, dans lequel c'est une union parfaite, quoi, qui amène à l'extase, une union comme celle d'un homme et d'une femme, je viens de le dire, mais qui est parfaitement pure, c'est-à-dire Enfin voilà, quelque chose de complètement inouï. Je ne savais même pas si que c'était catholique ce truc-là, quoi. Quand j'ai pas, absolument pas souvenir qu'on m'ait dit qu'il pouvait y avoir ce type d'union de type nuptial entre le Seigneur et nous, quoi. C'est quelque chose que j'ai découvert par l'expérience. Et comme il avait établi ce mode de relation avec moi, j'ai ressenti exactement ce que pouvaient ressentir, en gros, les sœurs dans cette extase, dans cette union avec le roi. Donc c'était extrêmement bouleversant, très bon, je voulais que ça s'arrête jamais. J'ai compris instantanément que le but de la vie était là, quoi, que c'était la plénitude de vie, c'était ça qu'on cherchait, c'était cette union avec le Christ. Puis ça m'a instantanément recentré sur plein de choses, quoi, en disant la vie éternelle, c'est pas demain peut-être après ma mort, quoi, c'est maintenant, elle a démarré, le Seigneur est là, présent, quoi, il est au milieu de nous. Évidemment, c'est écrit partout dans l'Évangile, mais là, je l'ai vu, quoi. Donc il y a une espèce de surnaturel comme ça qui surgit devant soi, qui est très troublant. Un recentrage sur l'Église, parce qu'évidemment, si le roi m'apparaît alors que il y a le Saint-Sacrement derrière, c'est pas par hasard, le jour de l'Ascension. Donc, qui dit hostie, dit prêtre, dit... toute l'histoire est vraie, quoi. À part aujourd'hui, mais la plupart du temps, je commence toutes mes journées par une messe aujourd'hui, par l'Eucharistie. Donc un vrai recentrage sur l'Église, et une vraie compréhension que le Seigneur, c'est pas une espèce de force abstraite d'amour qui dirige le monde de loin, quoi. Que c'est une personne qui est accessible, avec qui on peut communiquer, qui peut rentrer en relation avec nous, donc une espèce de Dieu très personnel, qui est accessible, qui est proche. Enfin, ça a été extrêmement bouleversant.
Voilà, enfin, je ne sais pas si on peut résumer, hein, parce que c'est le titre de votre ouvrage, évidemment. Les mots ne peuvent pas dire ce que vous avez vécu, même si vous nous le partagez généreusement. À un moment, vous dites « j'étais délicieusement écrasé par sa puissance d'amour ». Voilà, et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est à la fois cette immense autorité et en même temps cette puissance d'amour que vous décrivez. Toujours est-il que, malgré tout, vous continuez à marcher sur les chemins de Saint-Jacques, parce que voilà, vous en êtes pas mort, en tout cas, même si vous dites, on le voit un peu dans votre ouvrage, que peut-être il y a un homme qui est resté au puits. Et puis, vous continuez alors à avoir des espèces de douches. Alors, vous racontez ça, je ne sais pas si vous décrivez exactement comme des douches, mais je crois que oui, des douches de la miséricorde de Dieu. Alors, peut-être que les convertis qui écoutent cette émission se reconnaîtront là-dedans. Vous continuez à avoir pendant, je ne sais pas si c'est quelques semaines ou moins quelques jours, des grâces sensibles très, très fortes. Alors, c'est pareil, sans être trop indiscret ou indélicat, qu'est-ce que vous pouvez nous en partager? C'est quoi ces douches d'amour? Je dis ça parce qu'il y a des gens aussi parmi nos auditeurs, peut-être qui sont découragés, ou des gens qui prient depuis des années et qui n'ont pas reçu de grâce sensible. Donc peut-être ce sera pour eux une consolation que de comprendre ce que vous avez pu vivre.
Alors, juste avant de répondre à votre question, l'Église vit par les témoins, hein, parce que c'est des gens qui ont vécu des choses, qui témoignent de leur foi à d'autres. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas rechercher, en fait, ces grâces sensibles. J'ai compris après que... Alors, j'ai fait l'erreur, hein, parce que moi, j'ai prié pour qu'elles reviennent, parce qu'elles sont bonnes. Mais j'ai compris après que notre foi n'était pas basée sur cette expérience sensible. Et que, du coup, il faut en être prudent. C'est-à-dire qu'à la fois, quand elles arrivent, pas trop s'en intéresser. J'ai fait l'inverse, hein, je m'en suis intéressé, j'ai essayé de comprendre, etc. Mais c'est, en gros, merci Seigneur pour cette consolation, mais de pas trop s'y intéresser. Et en particulier de ne pas les rechercher, parce qu'on peut être trompé, ça peut être mauvais pour notre vie spirituelle. Donc c'est pas quelque chose qui doit être central dans notre foi. Donc oui, après cette expérience du puits, en fait quasiment tous les jours j'avais ce que j'ai entendu après s'appeler des effusions de l'esprit. Moi j'avais appelé ça une douche de miséricorde, je ne savais pas trop bien ce que le mot miséricorde voulait dire, mais au puits j'étais tombé par hasard sur un petit livret de sœur Faustine qui m'a appris à prier le chapelet de la miséricorde.
Donc il y a une sainte polonaise qui a eu des apparitions du Christ dans les années 30.
Voilà. Et en fait cette sensation de douche, c'est vraiment une sensation d'être lavé, d'avoir de l'eau qui, comme une douche qui nous purifie, qui fait du bien, qui me faisait pleurer, comme si cette eau débordait. Donc des instants de grâce extrêmement forts, c'est pas une présence personnelle comme celle de la rencontre avec le roi, mais c'était vraiment une présence de l'Esprit-Saint qui vient dire je t'aime et tu es pardonné et t'es quelqu'un qui vaut quelque chose, etc. Enfin, c'est ça fait infiniment beaucoup de bien, et on retrouve ces descriptions-là beaucoup dans il y a quand même des gens qui vivent de ce type de grâce, et qui souvent sont des grâces de conversion, mais pas seulement. Et donc j'ai eu la chance d'en avoir effectivement quasiment tous les jours pendant presque 3 semaines. Puis après elles se sont estompées, raréfiées, et puis après c'est tout quoi.
Donc, voilà. Alors après il y a toute une partie de votre ouvrage où justement vous partagez un peu le cheminement que vous avez eu après pour essayer d'intégrer en fait cette grâce très particulière. Peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, après il a fallu revenir dans la vie. Vous dites à un moment j'avais peur de revenir. Je savais bien que le choc allait être frontal, et il vous a fallu du temps après pour digérer tout ça, et
bah
puis
oui.
pour arriver peut-être à se faire comprendre, ne serait-ce que de sa femme ou de ses enfants ou de ses amis ou...
Oui, c'est compliqué. Vous imaginez, déjà après 2 mois sur le chemin, c'est beau, on est dans la nature, tout va bien, il y a zéro stress, on est dans... Enfin, plus ce que je venais de vivre là, où moi j'étais satellisé dans l'hyperespace, quoi. Enfin, j'étais ailleurs. Quand je suis rentré, Bénédicte me dit « Écoute, demain soir, on a l'anniversaire des 40 ans de Intel. » J'ai dit « Mais je peux pas y aller. Je peux juste pas y aller, quoi. » C'est... Pour mes enfants qui étaient adolescents à l'époque, c'est très dur de... Et mon histoire, j'ai pas pu la raconter telle quelle. Vous comprenez qu'elle est quand même elle est puissante, quoi. Donc j'ai mis du temps, j'ai essayé d'être délicat, de pas trop en parler. En fait, j'en ai parlé beaucoup trop, et donc mes proches ont peu compris. J'en ai quasiment pas parlé à mes amis, en attendant d'avoir pu vraiment l'écrire correctement et avoir un peu de recul. Et vous voyez, j'ai vraiment commencé à raconter au moment où le livre est sorti, 4 ans après. Où là, j'avais suffisamment de recul. Et heureusement que je l'ai fait, et de ne pas en parler trop tôt. Hein, c'est Thérèse d'Avila qui dit « Attention aux jeunes convertis et à ceux qui reçoivent des grâces comme ça. N'allez pas en parler tout de suite, même si vous en avez envie, parce qu'en gros, c'est comme une bouteille de parfum que vous ouvrez et puis il s'évapore, quoi, parce que ce n'est pas encore assez solide. »
Radio Présence à Mirande, 104.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin donc une émission avec Jean-Marc Potvin, intitulée « Du business au sans domicile fixe ». Alors maintenant, on va comprendre tout à fait pourquoi cette émission est intitulée comme ça, après donc le témoignage de Jean-Marc Potvin, que je remercie vraiment. Je rappelle le titre de l'ouvrage, si j'oublie de le faire à la fin de l'émission, « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, l'expérience mystique d'un business angel » aux éditions de l'Emmanuel. Vous rentrez chez vous, vous essayez de faire face à la situation, on imagine vos proches aussi, parce que vous deviez quand même être assez changé. Voilà, et puis petit à petit, donc, vous passez du temps à essayer de digérer ce que vous avez vécu, vous retrouvez un travail, et puis il se trouve qu'à un moment, la Providence, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, vous le direz vous-même, en décide un peu autrement, entre autres suite à la rencontre de personnes sans domicile fixe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé et comment peut-être Entourage, dans ces cas-là, quelle est un peu la genèse d'Entourage ?
Oui, alors moi, je fais pas le lien direct entre le témoignage de la rencontre du roi et puis Entourage, hein. Mais donc chronologiquement, effectivement, je retrouve un travail de patron des opérations d'un réseau social à Paris, chez Viadeo. Et comme j'habite Grenoble, je me prends une piole à côté de Viadeo et je vais travailler à pied le matin. C'est le luxe à Paris de pouvoir travailler à pied. Et en marchant 10 minutes à pied dans une ville comme Paris, vous croisez 5, 6, 7 personnes qui dorment sur le trottoir et que vous enjambez le matin en allant travailler, quoi. Et donc ça, c'était en 2012, et en fait, je fais leur connaissance. Donc au début, c'est juste un bonjour, éventuellement une pièce, et puis on parle un petit peu, et puis voilà. Je connais leur prénom, ils connaissent le mien, et puis parfois je m'arrête 10 minutes, on parle, ou une demi-heure, si voilà, et des fois on a vraiment besoin de parler. Bon. Et 6 mois après ça, c'était à l'hiver 2012, je tombe sur un des types que je connaissais bien, qui était en train de pleurer assez chaudement. Il faisait froid ce matin-là, c'était assez tôt, j'avais une réunion qui démarrait tôt, et il était vraiment très désespéré, alors que d'habitude il avait toujours un grand sourire et toujours la pêche, malgré sa condition objectivement mauvaise. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et là il me dit, bah regarde. Et il me montre ses dents, elles étaient toutes cassées. En fait, il s'était fait agresser violemment pendant la nuit, je pense à coups de barre de fer ou je sais pas quoi, et il était vraiment dans un sale état, et il pleurait en disant, qu'est-ce que je vais devenir si je peux même pas manger mon sandwich? Et je lui dis, attends, là, t'as une urgence, je vais appeler les secours. Et cet homme refuse. J'ai appris après que ça arrive assez fréquemment que les personnes sans-abri refusent les services d'urgence. Et c'est devenu mon problème. Je pouvais pas dire, tiens, j'étais sympa avec toi pendant 6 mois, on a parlé tant que tout allait bien, et maintenant que t'as vraiment un problème, tu comprends, moi, je peux pas t'aider, j'ai un travail, là, je suis en retard à ma réunion. Et le réflexe, ça a été d'utiliser mon téléphone. J'ai demandé aux réseaux sociaux, à Twitter, est-ce que tu connais un dentiste dans le 9e arrondissement qui accepterait aujourd'hui en urgence de soigner une personne SDF? Et ça a fonctionné. Je fais l'histoire courte, mais j'ai reçu un SMS d'un ami qui m'a dit « appelle ma dentiste ». La dentiste ne voulait pas, j'ai réussi à la convaincre, etc. Et puis après, je vais le voir en disant « écoute, j'ai obtenu un rendez-vous, viens avec moi, je t'emmène ». Là, le type refuse, s'il avait peur. Là, ça aurait été bien si on avait pu être deux. Ou trois à le connaître, peut-être à l'entourer et à l'emmener chez le dentiste. La dentiste le soigne, etc. Elle dit, il faut l'opérer, mais si je l'opère, vous ne pouvez pas le remettre sur le bord de la route, trouvez-lui un logement pour la semaine après l'opération. Comment on fait pour trouver un logement, une personne sans abri? Enfin bref, pareil, je me suis servi de mon téléphone, mon carnet de contact, etc. Et j'ai pas réussi d'ailleurs, j'ai échoué ce jour-là. J'ai eu pas mal d'expériences comme ça, souvent moins dramatiques, pendant 2 ans. Et en fait, en creusant un petit peu, je me suis dit, mais
pas mal d'expériences comme ça, c'est-à-dire le fait d'entrer en relation avec ces personnes et d'être entraîné aussi, parfois, malgré vous.
Et Robert, qui un matin me dit, mais voilà, on vient de me voler mon sac, j'ai mon passeport dans mon sac, je suis polonais, j'ai le droit d'être ici, je suis perdu, si j'ai pas de papier, aide-moi, quoi. Comment on fait pour aider un SDF polonais à Paris pour retrouver des papiers? J'ai mis plus d'une heure à trouver sur Internet qu'il y avait un service à la mairie du 11e arrondissement qui est ouvert de 9h42 à 11h23, et j'ai pas de voiture, je peux pas l'y emmener. Des petites galères, quoi. Mais forcément, dans la relation humaine, une fois qu'on a établi la relation avec quelqu'un, c'est assez humain, on est entraîné avec lui. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai commencé à faire quelques réunions de travail avec des personnes SDF pour comprendre, etc. Je me suis rendu compte que toutes les associations faisaient un super travail sur le terrain. On peut se soigner dans les rues de Paris, on peut, et dans les rues de France, hein, on peut trouver à manger, on peut trouver des vêtements, on peut trouver de quoi mettre ses bagages. Enfin, il y a un tissu associatif, institutionnel, de travailleurs sociaux qui font un super boulot. La plupart des personnes sans-abri le connaissent. C'est-à-dire que là, la personne aurait très bien pu elle-même faire soigner son problème de dents ou l'autre trouver un travailleur social pour l'aider dans ses papiers. Et pourquoi ils m'ont demandé ? Parce que ce qui leur manque le plus, c'est le lien social. En fait, les personnes sans-abri aujourd'hui, elles ont la double peine. Elles souffrent de leur situation matérielle, économique, et d'un isolement relationnel qui est assez terrible. Cyril, qui est une personne SDF que j'avais consultée à l'époque, me dit « Moi, je vois passer 3000 personnes. »
Il y en a 5 qui s'arrêtent, c'est ça ?
Ouais, il y en a 2 qui me disent bonjour. Ou Pierrot, qui dit « Moi, c'est un bonjour, ça vaut 100 sandwichs. » Donc, en fait, on ne réalise pas la solitude de ces personnes. Alors, certaines arrivent à avoir quelques relations dans la rue, mais du coup, l'indignité qu'on leur renvoie. C'est-à-dire que non seulement elle est dans la rue, déjà elle a honte en général d'être là parce que c'est, je veux dire, il faut déjà passer cette honte, mais en plus les gens ne le connaissent pas, me disent pas bonjour, me serrent pas la main, me considèrent pas, c'est terrible. Et du coup l'idée c'est de dire, est-ce qu'on peut imaginer un réseau sur téléphone mobile pour aider les riverains dans leurs relations avec les personnes SDF ? Donc pour inciter les riverains à rentrer dans la relation et à aider les riverains du coup en disant « Bon bah, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Si jamais dans cette relation, la personne sans-abri, elle te demande quelque chose, bah, y a plein de gens autour de toi qui vont pouvoir venir t'accompagner, t'aider, avoir la solution. Les associations du quartier seront là. »
Alors comment ça marche concrètement ? Donc j'ai l'application. Aujourd'hui, voilà. Donc elle est ouverte aux associations, mais pas encore aux particuliers.
Ouais, donc
demain,
Entourage.
Demain, je la télécharge, je suis une assoce. Comment ça...
Donc déjà, Entourage, c'est pas une application. Hein. Depuis tout à l'heure, on dit Entourage, c'est une application. En fait, c'est un réseau. C'est un réseau social qui se trouve être sur téléphone mobile, donc qui se matérialise sous forme d'une application Android ou iPhone. Mais c'est avant tout un réseau de personnes qui vont être bienveillantes et qui vont se connecter très localement. On pense que l'humanité se passe dans la proximité, hein, donc c'est dans mon quartier, dans ma rue. Et donc, en fait, on va localiser les différentes personnes qui portent l'application. Elles-mêmes ne seront pas géolocalisées sur des cartes. Hein. Mais nous, on va nous en servir pour mettre des gens en relation qui ne se connaissent pas forcément dans le quartier, pour entourer quelqu'un ou venir l'aider à faire une action particulière. Donc on va créer un entourage, par exemple, autour de Pierrot pour aller prendre un café avec Pierrot parce que il se sent un peu seul aujourd'hui et qui veut venir prendre un café avec moi
Donc l'entourage part de personnes, entre guillemets, comme vous et moi. C'est
oui.
ça, hein. Elle ne part pas des personnes sans domicile fixe. Vous dites qu'elles ne sont pas géolocalisées.
La demande d'entourage peut partir d'un riverain, elle peut partir d'une personne sans-abri si elle-même possède l'application, elle peut partir d'une association. Une association qui fait une maraude le soir, qui trouve à 22h quelqu'un qui a... je sais pas, il a besoin de shampoing, et il leur demande est-ce que vous n'avez pas un kit d'hygiène ou du shampoing ou des choses comme ça. Le maraudeur pourrait très bien essayer de créer un entourage pour que les personnes qui sont autour de cette personne sans-abri puissent au travers du maraudeur, venir le voir et lui ramener ce dont il a besoin. Donc,
côté assos, du coup, les assos à terme donc, ont accès à ce réseau. Vous disiez qu'il y a une espèce de... Enfin, ça permet aussi de mutualiser pour elles leurs forces ou de voir, comment dire, de ne pas multiplier les maraudes, d'essayer de taper au plus juste.
Voilà, donc la première version qu'on a lancée d'Entourage, donc qu'on a lancée au mois de septembre sur Android, qu'on a commencé à tester avec des associations.
Donc pour toute la France.
Et qu'on a... Alors, on a commencé à la tester sur Paris et sur Grenoble. Et on l'a généralisé début février, là il y a quelques semaines, à toute la France. Donc pour l'instant, on a déjà 7 villes avec une vingtaine d'associations qui ont rejoint le réseau Entourage. Pour l'instant, c'est uniquement une version qui est ouverte aux bénévoles de ces associations qui font des maraudes, des tournées rues dans la rue, qui vont auprès des sans-abri. Et là, eux, on leur offre un outil de coordination de leurs maraudes. Ça leur permet de voir sur une carte où sont les maraudes voisines, d'interagir entre eux, d'interagir avec un coordinateur. Ça permet de repérer les zones blanches dans lesquelles les maraudeurs ne vont pas. Ça permet de repérer à tel endroit, on est passé déjà 2 fois dans la journée ou 2 fois dans la nuit, on ne va pas aller réveiller la personne une troisième fois. Ça leur permet de faire leur compte-rendu. Ils ont un dicté vocal dans l'application, ce qui leur permet de voilà. Et Entourage ne stocke pas les données, évidemment, sur les personnes sans-abri. C'est-à-dire que les comptes-rendus sont envoyés aux maraudeurs et sont détruits ensuite de la plateforme Entourage. Donc, on ne crée pas de base de données sur les personnes SDF. On ne crée pas de cartes géolocalisées de où se trouvent les personnes SDF parce que ce serait dangereux, peu respectueux de leur vie privée, peu respectueux de la loi informatique et liberté. Il faut savoir qu'il y a des prédateurs. Hein. Il y a des gens qui vont détrousser les personnes sans-abri. Il y a des gens qui vont violer les femmes sans-abri. C'est un vrai fléau dans la rue. Donc, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait dans ces domaines-là. Donc, Entourage, actuellement, on est en train de le déployer partout en France, sur toutes les associations qui font des maraudes. Donc là, aujourd'hui, on va rencontrer un collectif de 19 associations à Toulouse. Ce sera la première fois, ce sera une très belle expérience si elle s'engage avec Entourage, parce que ça permettrait vraiment d'avoir ces 19 associations qui sont sur le terrain dans l'aide aux plus démunis et qui, tout d'un coup, se retrouvent sur une plateforme ouverte dans laquelle elles peuvent coopérer, interagir et faire leur travail d'aide aux plus démunis. Quoi.
Et alors demain, pour moi particulier, je vais acheter mon sandwich, je croise une personne sans domicile fixe tous les matins, qu'est-ce que je peux faire? Je télécharge l'appli et puis demain, qu'est-ce que...
Donc en fait, pour vous, personne particulière, ça sera au deuxième trimestre. Donc en fait, vous rejoignez le réseau Entourage et si vous êtes en relation avec une personne sans abri et que vous lui parlez, vous connaissez son nom, évidemment, vous n'avez pas besoin d'une appli pour lui dire bonjour. Par contre, quand vous êtes en relation avec elle depuis 6 mois et qu'à un moment donné, elle a un problème particulier ou une galère particulière, Entourage va vous aider à trouver une solution. Soit avec des autres riverains, donc on va vous mettre en relation avec d'autres personnes autour de vous qui, comme vous, sont sensibles au problème des sans-abri, qui pourront potentiellement venir vous aider à régler un souci, une démarche de papier, quelque chose comme ça, ou faire intervenir une de ces associations qui, du coup, sera déjà présente dans le réseau, parce que certains cas sont trop compliqués à régler par les riverains. Si vous tombez sur une femme migrante qui est bulgare, qui est enceinte et qui n'a pas de suivi de grossesse, le riverain, il est vite démuni sur ce qu'il peut faire. Donc là, ça vaut le coup qu'à un moment donné, les associations de votre quartier, de votre secteur, puissent dire bah, « nous, on va peut-être voir avec une maraude ou avec un travailleur social pour faire quelque chose pour cette femme. Voilà. » Donc il y a un lien nouveau, hein, qui est vraiment disruptif et innovant.
Disruptif, ça veut dire ?
Disruptif, ça veut dire qu'on va vraiment regarder le problème sous un angle neuf, quoi, où on va considérer différemment la relation entre les associations et les habitants, qui aujourd'hui n'est pas formalisée et complexe, quoi, et où n'existe pas dans bien des cas. Donc là, on va permettre une forme de porosité entre ces deux mondes, sachant que les habitants ne vont jamais remplacer le travail d'une association ou d'un travailleur social. Ce n'est pas leur job, ils ne sont pas formés pour, ils ne sauront pas faire. Mais par contre, l'habitant peut amener quelque chose qu'une association n'amène pas, qui est vraiment de simplement de reconnaître la personne que je croise tous les matins quand je vais travailler à mon abribus, de lui dire bonjour. Et c'est de retisser ce lien humain que ça permet, quoi.
Et de les impliquer aussi. Vous disiez que demain, une personne sans domicile fixe peut créer un groupe entourage.
Alors, bien sûr.
Qu'est-ce qu'elles vous disent de cette application?
Bien sûr. Bah, en fait, moi, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous montrer les vidéos des personnes SDF avec qui on travaille, quoi. Hein. Elles sont enchantées de ça parce qu'elles ont les yeux qui brillent avec ça. L'idée de dire mon voisin, il va me distribuer un sandwich ou une couverture, ça les replonge dans leur honte et dans l'humiliation de leur situation. L'idée que mon voisin m'invite à faire un tournoi de Scrabble à la mairie, va participer ou m'emmène prendre un café ou faire un cinéma, ils ont les yeux qui brillent, vraiment. Donc cette exclusion relationnelle, cette exclusion sociale, qui est cette double peine sur les sans-abri, eux, ils adhèrent vraiment au truc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, 5 à 10% des sans-abri ont un smartphone. Quasiment 80 ou 90% ont un téléphone de base. Hein. Ils le cachent parce qu'ils ne veulent pas le montrer, mais aux États-Unis, ils sont déjà presque tous équipés. On pense que dans 2 ans, ils le seront. Donc l'application fonctionne même si les sans-abri n'ont pas le smartphone, auquel cas on crée des entourages avec eux, En connectant les riverains ensemble grâce à l'application, même si la personne sans abri ne l'a pas. Et dès que la personne sans abri a elle-même son compte entourage, alors ça la recapitalise d'un réseau social. C'est-à-dire que là, elle garde quelque part le contact des voisins qui ont été en relation avec elle dans des entourages. Et même lorsqu'elle est dans un processus de sortie de rue, par exemple, si grâce à une association, elle retrouve un logement quelque part, aujourd'hui, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans leur quartier. On leur trouve un logement, mais dans un autre quartier, bien souvent, parce que c'est compliqué de leur loger à cet endroit-là. 6 mois après, ils retournent à la rue parce que plus personne vient. Enfin, ils sont perdus tout seuls dans leur logement. Là, elle garde avec elle son réseau de relations qu'elle peut activer, elle peut recréer des entourages avec eux. Donc voilà. Donc c'est assez innovant, hein. C'est-à-dire qu'on crée un réseau social de proximité dans le but de faire des actions bienveillantes ensemble autour de personnes en grande situation de détresse, quoi.
Eh ben merci beaucoup et longue vie à Entourage. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Jean-Marc Potvin.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou le retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.